Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Ça se réchauffe à Québec, je vois que pour les prochains jours, on va être aux alentours du 0 degré, 1 degré, 2 degrés, donc c'est la bonne nouvelle, on s'en va vers le printemps, faut pas désespérer. Ce soir, on va passer un excellent 60 minutes avec quelqu'un qui, je vais être très honnête, là, je connaissais cette personne-là de nom, mais je n'étais pas capable de mettre un visage sur cet individu, ni vous dire qu'est-ce qu'il a fait exactement. Je crois l'avoir entendu sur les ondes de Radio-Canada il y a de ça quelques temps, mais bref, c'est un invité qui m'a été proposé par mon collaborateur Tom, qui m'a dit « Yann, ce gars-là est super intéressant », et en allant voir ce qu'il faisait, bien, je me suis rendu compte qu'effectivement il y a beaucoup de matière pour les auditeurs de Boulevard, et on va jaser avec lui pendant 60 minutes ce soir. Mon invité, son nom, c'est Samuel Larochelle. Salut Samuel!
Salut!
Comment on fait pour être écrivain, journaliste, chroniqueur, entrepreneur culturel, conférencier, formateur, quand on est dans la jeune trentaine, on va dire ça comme ça, tu fais beaucoup de choses.
Ouais, je suis vraiment une machine. C'est comme ça que mes amis me surnomment. Puis je leur dis tout le temps que j'ai plus d'énergie que la moyenne. Je pense que je suis un hyperactif, mais fonctionnel. J'ai trouvé comment contrôler cette énergie-là, de la mettre dans des trucs qui me passionnent vraiment beaucoup. Et le truc aussi, présentement, c'est d'être célibataire et sans enfant, donc beaucoup de temps libre. Pour tous mes projets.
Ouais, puis tu travailles de la maison, c'est ce que tu m'expliquais tantôt pendant la pause. Tu es un gars qui travaille de la maison. Le télétravail, ça fait sauver beaucoup de temps.
Ouais, ça fait. Moi, c'est pas la pandémie qui m'a fait rester à la maison. Ça fait presque 12 ans que je fais ça. Fait que je suis chez moi, j'ai pas à me taper les transports, j'ai pas à me taper le trafic. Je me réveille le matin, puis une heure après, je suis assis à mon bureau, puis je commence, puis je peux faire des pauses pour mes pratiques de chant à tous les jours, pour regarder la télé, pour lire. Fait que je suis mon propre patron. Je fais tout ce que je veux quand je veux. C'est un peu le rêve de tous les enfants, de tous les adolescents, mais moi, c'est ma réalité.
Ouais, mais il faut avoir cette discipline-là. Moi, je suis très honnête avec toi, Samuel. Quand je suis chez nous, puis je sais que je dois faire de la recherche, j'ai l'impression des fois que le frigidaire m'appelle, que le divan m'appelle, que la télé m'appelle. Donc, je dois toujours être dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire au travail ou encore dans une bibliothèque. À Québec, on a la chance d'avoir une grosse bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Gabriel Leroy, qui va réouvrir bientôt, soit dit en passant. Et quand je vais là, là, je suis capable de travailler puis d'être concentré, mais à la maison, j'ai pas cette discipline-là que tu as, toi, actuellement.
Bien, vous avez aussi la merveilleuse maison de la littérature.
Ben oui.
Je vais être de passage à Québec. Je viens juste d'y penser. Je vais être de passage le 16 mars pour un spectacle à Québec à la maison de la littérature qui est déjà complet. On n'a pratiquement pas fait de promo, puis tout s'est rempli. Et il y a aussi un cégep, le cégep Garneau, qui m'a demandé un spectacle le 19 avril. Donc, bientôt, je vais faire deux passages dans votre belle ville pour animer et performer dans des spectacles.
Tu as étudié dans quel domaine pour faire toutes ces choses-là?
Dans un seul. Moi, j'ai étudié en journalisme tout de suite après le secondaire. Au Québec, si on veut devenir un journaliste, soit on va à l'université faire un bac, après, j'imagine, sciences humaines au cégep, mais il y a aussi une seule technique pendant presque 45 ans qui avait le droit d'enseigner le journalisme. C'est à Jonquière. C'est le programme Arts et technologies des médias. Donc, il y a plein de monde qui ont appris les boulots derrière la caméra pour faire de la télé, du cinéma, les animateurs radio. Et il y a une branche pour le journalisme, autant à la radio, à la télé et à l'écrit. Fait que moi, j'ai fait ça. J'avais besoin de quitter ma ville, ma famille, ma région, puis d'aller le plus rapidement possible dans un sujet, un programme qui m'intéressait. Fait que je venais juste d'avoir 17 ans, puis je suis parti au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
OK. Puis qu'est-ce qui t'intéressait dans le journalisme? Est-ce que tu voulais faire de l'actualité? Tu voulais faire des faits divers? Tu voulais faire du culturel?
Du culturel. Moi, je suis vraiment... Aujourd'hui, je fais de presque tout, sauf la politique et les faits divers. Je traite de beaucoup de sujets, mais à la base, je suis vraiment un journaliste culturel. Je suis un artiste. Je m'intéresse à pratiquement toutes les formes d'art, des plus populaire au plus niché. Je suis vraiment curieux de tout ça. Fait que moi, au cinéma, je vais aller voir les gros blockbusters et les films indépendants pour les Oscars. Je trippe autant avec un ou l'autre. C'est la même chose avec la musique, le théâtre, la lecture, la télé. C'est très large. Fait que je voulais me spécialiser là-dedans.
OK. Puis c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Mais tu me dis que tu es capable d'aller voir les gros blockbusters autant que les séries B ou encore les choses qui sont très, très, très nichées. Puis tu es capable d'apprécier tout ça, puis d'être capable de, aussi de raconter ce que c'est que ce film-là et de parler de ton appréciation pour que ça rejoigne un peu monsieur et madame tout le monde.
Oui, moi, dans tout ce que je fais comme journaliste, comme écrivain, je veux rejoindre monsieur et madame tout le monde. Je déteste les journalistes et les écrivains prétentieux qui utilisent des mots à 1000$ pour se confirmer qu'ils sont intelligents et qui veulent montrer à quel point ils ont plus de culture que tout le monde. Moi, je suis comme, non, je veux vous donner envie d'aller voir les films ou vous faire comprendre avec le vocabulaire que vous utilisez dans la vie de tous les jours, de ne pas aller voir ce film-là parce que c'est manqué pour telle ou telle raison. Fait que, puis même les spectacles littéraires que je fais, c'est très loin des soirées littéraires prétentieuses, inaccessibles qu'on peut imaginer. C'est hyper vivant, hyper accessible. Moi, j'ai grandi en Abitibi. Mon père vient de la construction, ma mère était éducatrice spécialisée. Fait que, j'avais pas de contact dans mes deux milieux, j'avais pas de modèle, puis je viens certainement pas d'un milieu intellectuel à outrance. Fait que je pense que je peux dire que je viens d'un milieu ouvrier. Fait que c'est ça qui fait en sorte que je veux que mes projets parlent à tout le monde. Ça veut pas dire que ce que j'écris, c'est simpliste. Il y a énormément de travail, mais c'est assurément, c'est de la pop ce que je fais. C'est comme, j'appelle ça de la pop raffinée. Si je peux me permettre.
Ah, j'aime ça. Samuel La Rochelle, tu as abordé quelque chose d'intéressant. Les experts qui vont voir, du théâtre ou encore qui vont voir du cinéma. Souvent, on regarde sur certains sites où on donne une cote des experts versus une cote d'appréciation du public. Puis on voit qu'il y a une grosse différence, surtout quand c'est un blockbuster. On dirait que ceux qui se disent experts ont tendance à donner une note beaucoup plus basse pour le blockbuster versus l'appréciation du public où des fois, là, c'est un genre de 8 ou 9 sur 10 comparativement aux experts, 3, 4 sur 10. Tu dis, mais attends un peu, à quel point ces gens-là peuvent être différents de nous? T'sais, moi, je suis monsieur et madame tout le monde. Quand je vais voir un blockbuster, je vais là parce que, de un, ça ne me tente pas de réfléchir pendant 2 heures de temps, puis je sais que je vais être diverti. Les experts, des fois, ils ont une critique très sévère puis ils s'éloignent de ce que les gens peuvent aimer.
Oui et non, parce que quand on va voir plein de films, plein de théâtre, de spectacles de cirque, on développe notre regard critique encore plus. Fait que quand on voit quelque chose qui a déjà été fait 1000 fois, parce qu'on a eu l'occasion d'aller voir plein de choses, on le dit, puis ça nous touche moins, ça nous fait moins rire, ça va moins nous emballer. Alors que si tu vas au cinéma une fois ou 6 mois, ça se peut que pour toi, c'est la première fois que tu vois ce genre de film d'action, de super-héros, mais que si tu es le spécialiste des films de super-héros à la presse, qui va en voir un par semaine ou par 2 semaines, là, tu as tellement de bases pour comparer que tu es un peu plus critique, puis on développe aussi une façon de décortiquer notre expérience de spectateur ou de cinéphile. Fait qu'on est plus pointilleux. Moi, je me rappelle, dans le monde du cirque, j'avais la chance d'aller voir les shows du Cirque du Soleil à chaque année, puis d'aller voir aussi les shows de la TAHU, puis les shows du Festival Montréal complètement cirque. Fait qu'à un moment donné, si ça tournait toujours autour des mêmes numéros, que l'histoire, c'était plus un prétexte qu'une vraie histoire, une vraie trame narrative. Ça me faisait décrocher, ça me rendait pas mal plus critique. Mais mes parents, s'ils vont voir un show du Cirque du Soleil une fois aux 3 ans, versus moi qui voyais à l'époque 8 shows de cirque par année, c'est sûr que c'est pas la même appréciation.
Ah, ben c'est intéressant cet angle-là. Je l'avais pas vu de cette façon-là. T'sais. Mais moi, souvent, on se fie un peu à notre entourage. Il y a des gens qui vont triper sur un band de musique, exemple. Puis à partir du moment où ce band de musique-là va devenir hyper populaire, ces gens-là vont s'en éloigner parce qu'ils veulent pas écouter quelque chose qui est hyper populaire. Parce que selon eux, si c'est hyper populaire, c'est pas nécessairement de qualité. Puis moi, c'est un peu plus comme ça que je voyais ça, les critiques de cinéma. Il y avait Tipoel, René Lévesque, que tu dois avoir entendu parler, j'imagine. René Lévesque qui avait dit « Méfiez-vous toujours des gens qui prétendent aimer le peuple, mais qui détestent ce que les gens du peuple aiment. » C'est une phrase qui a vraiment résonné en moi parce qu'on remarque ça souvent. Puis des fois, je me dis, est-ce qu'on se reconnaît encore, tu sais, au travers des médias qui nous entourent? Est-ce qu'on considère que les journalistes sont de notre côté? Parce que les journalistes, c'est les défenseurs de la démocratie quand on parle d'actualité, quand on parle de politique et tout ça. Puis pour ceux qui sont peut-être un peu plus du côté culturel, ben on a tendance à se dire, OK, mais ces gens-là, est-ce que... est-ce qu'ils sont un peu comme nous? Puis quand on comparait les cotes d'experts versus les cotes d'appréciation du public, je me disais, OK, ben, peut-être que les journalistes se sont éloignés, mais j'aime beaucoup ton point de vue en disant, c'est parce que vous autres, vous regardez souvent ces fameux films-là, vous en voyez différemment, d'autres styles et tout ça, vous êtes capable de faire les comparaisons. Fait que c'est le fun.
Puis je vais même ajouter quelque chose, puis je ne me ferai pas d'amis en disant ça, mais autant en cinéma puis en littérature, il y a des gens qui aiment ça, lire des livres ou voir des films dont les histoires sont déjà prévisibles. Ils ont déjà lu 1000 fois, ça leur fait du bien, ça les réconforte, ça vient calmer une forme peut-être d'anxiété que d'autres aspects de leur vie vont générer. Fait que ça leur fait du bien d'aller dans quelque chose de connu, une comédie romantique. Ils savent déjà c'est quoi la fin. Cet acteur-là, il joue toujours dans des films le même personnage. Fait que il y a des trucs en littérature qu'on dirait que c'est de la recette. Ils se sont pas forcés pour rien apporter de nouveau, ni dans les dialogues, ni dans l'histoire, ni dans les personnages. Puis ça pogne. Fait que moi, quand je regarde ça, j'ai pas l'impression que le journaliste qui le critique se désintéresse de ce qui intéresse le peuple, mais il y a une partie de la population qui se contente de peu ou qui a besoin de prévisible et de guimauve. Fait que ça aussi, mais le peuple, il est très, très, très varié, là, faut se le dire. Mais je remarque, des fois, je me demande, mais pourquoi ça, c'est populaire? Pourquoi le monde aime ça? Je veux dire, ça fait 40 ans que ce genre d'histoire-là, on les entend puis on les lit. Je te dis pas d'aller voir le film Serbo-Croate en sous-titré avec une histoire qui t'intéresse pas, mais genre, ouvre tes œillères puis va essayer des nouvelles affaires. C'est un peu ça aussi.
Ouais, ben c'est comme les goûts, en alimentation, les goûts, ça se développe. On peut ne pas aimer quelque chose, puis au fur et à mesure qu'on vieillit, puis là, j'essaie d'inculquer ça à mes enfants. Là, mon plus vieux, Josh, qui est un peu comme son grand-père, qui est difficile surtout, qui est très pointilleux, je dis tout le temps, essaye beaucoup de choses, tes goûts vont se développer. Bon, il ne me croit pas encore, là, mais espérons, Sam, qu'un jour, il réussisse à développer ses goûts. Mais tu as raison, c'est plus on consomme des choses différentes, plus on est capable de cibler ce qu'on aime, puis on évolue aussi avec le temps. T'sais, on n'est pas figé dans le temps.
Parce que si on mange juste du McDonald's, on ne sera pas en santé, on ne sera même plus heureux de manger du McDonald's. Mais si une fois après être sorti avec des amis, tu vas te prendre un bon McDo, puis 2 jours après, tu vas chez un ami qui te fait quelque chose que tu n'as jamais mangé, pour moi, c'est ça le plaisir, c'est la variété, comme tu le disais. Mais si c'est juste du facile puis du fast-food culturel, là, ça se peut que je me tente. Je l'aime, mais pas tout le temps.
Puis ça dépend tout le temps, on est dans quelle ambiance aussi. T'sais. Des fois, on va aller voir des films d'action ou des fois, on va aller voir des films d'horreur. Puis des fois, on écoute un film qu'on a souvent écouté. T'sais, moi, Elvis Presley, là, le film Elvis Presley qui est sorti il y a de ça quelques temps, je pense que je dois l'avoir regardé à peu près 30 fois parce que le soir, quand je suis chez moi, puis ça me tente juste d'avoir un bruit de fond, je me mets ce film-là. Mm-hmm. Elvis a toujours fait partie de ma vie quand j'étais jeune. Je l'écoutais à la radio. Puis ça n'a jamais quitté Elvis Presley à la maison. Fait que c'est comme une présence rassurante. Fait que peut-être que c'est ça, les gens qui vont voir des blockbusters américains, mettons Fast and Furious, c'est tout.
Oui. Là,
ils sont rendus avec des véhicules dans l'espace. Personne ne se pose de questions à savoir si c'est possible un automobile dans l'espace, mais les gens y vont parce qu'il y a de l'action, il y a des acteurs qui aiment, c'est rassurant, puis ils ont l'impression qu'ils ne seront jamais déçus. Est-ce que autre question, Samuel Larochelle, pardon, est-ce que le journalisme, depuis que tu le pratiques, a changé?
Je ne sais pas à quel point ma façon de pratiquer le journalisme a changé, mais c'est sûr que, mettons, l'espace critique a diminué dans les pages des journaux et des magazines. L'espace pour les articles culturels en général a beaucoup changé aussi.
Ouais.
Ça a diminué pour presque tous les sujets. Hier, je lisais un portrait de Louise Cousineau, l'ancienne chroniqueuse TV de La Presse, qui était... de beaucoup, beaucoup de monde. Puis à son époque, au début, c'était difficile d'avoir de l'espace pour écrire sur la télé, mais peu à peu, c'est devenu tellement populaire auprès des lecteurs que les chroniques ont augmenté, ont allongé. Je sais que ceux qui font de la télé, ou admettons à Radio-Canada, ils doivent faire la télé, la radio, être sur Twitter, c'est multi-plateforme. Moi, en tant que journaliste indépendant, donc un pigiste, c'est beaucoup moins comme ça. Moi, c'est un contrat à la fois. Je travaille seulement à l'écrit présentement. J'ai déjà fait de la radio dans le passé. Mais fait que c'est un contrat pour un journal ou un magazine. Fait que c'est pas multiplateforme. C'est beaucoup plus relax. Ce que moi, je fais par rapport à un journaliste de Radio-Can ou de TVA, qui lui a de la broue dans le toupette pendant 10-12 heures par jour.
Oui, puis ce qui est assez complexe aussi quand je regarde le journalisme en général, c'est vraiment qu'au départ, on acceptait qu'il y ait des histoires de chats et de chiens écrasés dans le journal, exemple. Puis on acceptait aussi qu'il y ait des grands reportages avec des journalistes d'enquête et tout ça. Puis ce qu'on s'est aperçu avec l'Internet qui est arrivé, c'est que les gens ont plus une tendance à cliquer sur le consommer jeté que sur un grand reportage d'un journalisme qui va faire du journalisme de fond, puis qui va être capable de passer l'ensemble du sujet, ce qui fait en sorte que ceux qui sont les propriétaires d'entreprises disent « Attends un peu, là, c'est parce que moi, j'ai plus de clics sur les chiens puis les chats écrasés versus un reportage que je vais avoir dépensé 10 000 $ Donc, la tendance va être plus de diriger nos journalistes vers des choses qui semblent intéresser les gens. Mais à mes yeux, à moi, faut au moins qu'il y ait les deux. Faut pas qu'on se dirige plus vers des nouvelles faciles qui sont du consommer-jeter, qui nous apprennent absolument rien, si ce n'est que des faits divers. Ça prend autre chose, puis c'est la même chose au niveau culturel. T'sais. Quand vous faites un papier sur quelque chose qui est sporadique, là, je sais pas, moi, voici ce qui va se passer cette semaine à Québec ou à Montréal, je trouve ça intéressant, puis ça va être cliqué. Mais je veux savoir, toi, quand tu fais un reportage sur un truc qui t'intéresse, je veux avoir des papiers de fond qui font le tour au complet du sujet, mais on dirait qu'effectivement, il y a moins de temps.
C'est influencé par plein de choses. C'est la capacité d'attention des gens quand on lit ou quand on regarde quelque chose. C'est la crise des médias. Une grande partie des revenus sont allés vers Facebook, Google et compagnie. Donc, on a moins de sous pour faire, par exemple, du journalisme d'enquête qui prend énormément de temps. Mais les reportages de fond, il y a comme un regain depuis quelques années. Après, les trucs plus courts et plus faciles, les gens ont soif de profondeur, d'un peu plus de longueur. Pas tout le monde, mais c'est en train de regagner de la popularité. Mais il y a tellement de facteurs qui influencent ça. Puis tu sais, on est dans une société où on a des horaires surchargés. On veut donc bien performer, on veut donc bien acheter de choses, donc travailler plus, performer plus. On a moins le temps pour consommer des nouvelles, pour les lire, pour les regarder. Ça influence comme un cercle vicieux, tout ça.
On va parler de la portion artiste de Samuel Larochelle tantôt. Je vais juste closer le sujet du journalisme. T'as écrit sur la communauté LGBTQ+. Avec le temps, depuis que t'es sorti de l'école, est-ce que tu considères que le sujet a été... Est-ce que tu considères que le sujet a été très creusé puis qu'on est rendu à un moment où on n'a plus vraiment besoin d'en parler, ou il y a encore énormément de travail à faire pour connaître cette communauté-là?
Il y a encore énormément de travail à faire pour les connaître, comprendre leurs nouveaux combats, les nouvelles demandes, parce que c'est une communauté en constante évolution. Il y a des angles qui n'ont pas été couverts dans le passé. T'sais, par exemple, ça a souvent été les personnes homosexuelles et, admettons, gays et lesbiennes qui étaient mises de l'avant. Puis là, depuis quelques années, on comprend un peu mieux les personnes trans, on comprend un petit peu mieux les personnes non-binaires. Mais là-dedans, est-ce qu'on peut aller vers une catégorie à l'intérieur d'une autre, puis réaliser qu'un immigrant qui est homosexuel, c'est pas la même game qu'un petit gars d'Abitibi qui est homosexuel, tu sais. Donc, il y a plein de nuances qu'on peut encore présenter, raconter. Il y a plus de place qu'avant qui est accordée dans les médias sérieux. Il y a aussi beaucoup, malheureusement, de commentateurs et de politiciens qui utilisent les demandes ou les enjeux LGBTQ+, ils mettent de l'huile là-dessus, pour que ça crée du feu, pour que la population regarde ça et s'indigne en manquant d'informations pour vraiment bien comprendre tous les enjeux. Fait que pendant qu'on regarde ça, on ne s'intéresse pas à l'environnement, on ne s'intéresse pas à la crise du logement, on ne s'intéresse pas à l'itinérance. Donc, il y a beaucoup de politiciens et de commentateurs qui se servent des communautés LGBTQ+, comme des épouvantails. On va frapper sur eux, on va détourner l'attention du grand public pour qu'ils regardent ça, puis qu'ils réalise pas qu'on n'en fait pas assez pour les grands, grands, grands enjeux sociaux.
OK, je suis frappé parce que tu me dis... moi, j'ai eu la chance, puis les gens qui m'écoutent ont eu cette chance-là aussi à Québec et Montréal, c'est de vivre avec des communautés proches de nous. Donc, des gens, les gens de la communauté LGBTQ+, dans le temps, c'était juste des gays, en fait. J'avais la chance de côtoyer cette communauté-là. Fait que pour moi, tu sais, en 2024, qu'on fasse encore une différence avec ces gens-là, je trouve ça hallucinant parce que moi, déjà, à l'arrivée du second c'était dans ma vie. Puis regarde, ces gens-là font partie de notre communauté, sont acceptés, mais de ce que je comprends, c'est qu'à l'intérieur de la communauté, on sait qu'il y a encore énormément de travail à faire. Puis pour les régions aussi, on va se le dire, des gens qui ont peut-être moins la chance de rencontrer des gens de la communauté gay, eux autres sont encore peut-être un peu plus réfractaires. Mais je pense que Montréal, c'est réglé, Sam. Québec aussi, c'est réglé. T'as pas cette impression-là?
Non, malheureusement, parce que je vis à Montréal depuis bientôt 18 ans. J'ai vécu 17 en Abitibi, 3 au Saguenay. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été à Québec dans le passé aussi. Puis ma polyvalente à Amos, en Abitibi-Témiscamingue, a maintenant une structure pour accompagner un jeune qui veut faire une transition de genre. Je suis comme, mon Dieu, que vous m'impressionnez. Puis il y a bien des écoles de Québec et de Montréal qui ne peuvent pas en dire autant. Et donc, il y a encore de la fermeture dans les grandes, grandes villes. Les régions, j'avais les mêmes mots que tu as utilisés. Je me disais, ils côtoient moins cette forme de différence-là. Fait que quand on la voit moins, on a encore peut-être certaines réticences, certains préjugés, mais c'est en train de bouger parce qu'il y a de plus en plus de personnes LGBTQ+, qui restent dans les régions ou qui y retournent en tant que célibataires, en tant que couple, en tant que parents homoparentaux. Fait que c'est en train de faire partie du paysage, c'est en train de se normaliser, même si c'est un terme que j'aime pas. Donc, j'aurais beaucoup moins peur qu'avant de déménager en région qu'il y a 15 ans. Jamais dans 100 ans, j'y aurais pensé, alors que présentement, c'est un peu plus accessible que je le pensais.
Parce que je fais un parallèle que tu vas dire peut-être boiteux, mais après ça, tu vas comprendre ce que je dis. T'sais, la xénophobie et le racisme vont toujours exister, ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de diminuer le plus possible les gens xénophobes ou racistes. Ça va être l'éducation. Ça va être le fait de côtoyer aussi les gens qui viennent d'ailleurs, qui arrivent chez nous, dans nos villages, peut-être un peu plus éloignés, puis de dire « Ah, ben regarde, c'est lui qui est responsable à l'école, la surveillance de nos enfants. J'ai eu l'occasion d'y jaser. C'est une bonne personne. » La xénophobie, tu vas la guérir comme ça à un moment donné. C'est la xénophobie, c'est la peur de l'étranger. Ben, c'est peut-être la même chose pour la communauté LGBTQ+. C'est que quand quelqu'un arrive avec peut-être une façon différente de marcher, une façon différente de s'exprimer, une façon différente de s'habiller, de se coiffer...
De vivre.
Après quelques temps, tu vas passer à d'autres choses dans ta tête puis ce ne sera plus quelqu'un de différent. Ça va être quelqu'un comme toi qui vit avec quelqu'un du même sexe que lui puis on va passer à d'autres choses. C'est qu'à Québec et à Montréal, on avait la chance de côtoyer la communauté versus les autres endroits où il y a encore énormément de travail à faire. Puis toi, tu me le dis qu'à Québec et à Montréal, il y a encore du travail à faire. Bien, j'ai forcé de constater que tu t'y connais pas mal plus que moi là, dans cette belle communauté-là.
C'est que de peu importe l'endroit, on est aussi à une époque où tout bouge tellement vite. Les gens se sentent dépassés par la technologie, se sentent dépassés par la crise climatique, par la pandémie dont on sort à peine. Fait que quand, en tant que personne, tu perds tes repères puis que tout va mal autour, t'as besoin de trouver une raison. Puis donc, t'as besoin de trouver un coupable. Puis à travers les décennies puis les siècles, les gens ont souvent le réflexe d'utiliser les minorités comme punching bag. Fait qu'on se dit, c'est la faute aux immigrants. C'est la faute aux personnes LGBTQ+. C'est souvent, souvent les personnes en minorité qu'on va pointer du doigt comme étant responsable de plusieurs problèmes de société parce qu'au fond, on a du mal à suivre l'évolution des choses. Puis ça nous fait du mal que le monde bouge, puis des fois, bouge pas dans la bonne direction. Fait que les minorités servent encore beaucoup trop de punching bag et de défouloir.
Ouais. Mais tu comprends ma vision. T'sais, moi, j'ai l'impression que le débat, il était fait depuis des années. J'ai passé à d'autres choses. Puis quand je vois qu'il y a des gens qui disent « Non, faut continuer d'en parler », je me dis « Mais... » Il me semble qu'on a fait le tour. T'sais. Fait que c'est important d'avoir des gens comme toi, Samuel, qui écrivent sur le sujet pour essayer de nous faire découvrir d'autres choses. Parce que dans ma tête, moi, quand j'entends parler des drag queens qui racontent des histoires aux enfants, là, je me dis, attends un peu, là, ils ont-tu obligé les enfants puis les parents à aller à cette bibliothèque-là pour entendre une histoire? Ils ont-tu obligé? Non? OK, débat clos. C'est des gens qui voulaient y aller. Puis la drag queen, elle parle pas de trucs qui sont épouvantables pour les enfants. Elle raconte une histoire. Si les parents étaient d'accord avec ça, en quoi ça me regarde, tu sais?
Oui. Mais tu as raison de dire que les batailles pour les droits des gays et lesbiennes sont en presque totalité gagnées. Là, il y a encore beaucoup de batailles pour les personnes trans et non-binaires. Donc, il faut être solidaire de ça. Mais il faut aussi garder en tête que les victoires pour les gays et lesbiennes sont récentes. Quand ça date de quelques années ou de deux décennies pour le mariage entre personnes de même sexe, c'est très jeune. Et on a vu dans d'autres sujets sociaux, comme aux États-Unis, l'avortement a pris un énorme pas de recul, a mangé un coup de poing d'en face avec les lois qui sont passées. Donc, c'est très fragile. C'est pour ça qu'il faut rester hyper vigilant, même pour les batailles qu'on a gagnées. Il faut aussi considérer que moi, je suis un homme gay, mais je dois être solidaire des personnes trans, des personnes non-binaires, tout comme je le suis pour les personnes hétéros dans d'autres sujets de leur vie. Fait qu'il faut rester à l'affût de tout ça. Puis souvent, c'est en étant entouré d'amis différents. Moi, autour de moi, j'ai des hétéros, des gays, des lesbiennes, des trans, des non-binaires, des gens blancs, des gens d'origine arabe, afro-descendante, asiatique. Tout ça, ça me permet de savoir on est rendu où en société. Parce que plus on les côtoie, plus on les comprend, puis on est un peu plus à l'affût de c'est quoi leurs enjeux aujourd'hui.
Samuel Larochelle, on parlait de journalisme maintenant, on parle d'un autre pan de ta carrière, celui d'auteur. Je vais t'avouer quelque chose, j'ai déjà commencé à écrire un roman quand j'étais très jeune. J'avais une inspiration là, avec un policier, exemple, qui faisait une enquête sur un meurtre qui s'était commis à Québec. Puis j'ai écrit à peu près 100, 150 pages, puis j'ai jamais osé diffuser ce roman-là parce que j'étais gêné. T'sais. Puis encore à ce jour, mm-hmm. si je retourne sur l'ordinateur où j'avais écrit ça, probablement que je me dirais, bon, c'était une drôle d'idée. L'histoire, au départ, n'est pas si pire, mais j'ai comme jamais osé diffuser ce pan-là de ma vie. C'est-à-dire, regarde, je voulais écrire un livre, puis j'ai écrit une intrigue policière. Toi, ton premier move comme auteur, comment tu t'es dit, attends un peu, là, moi, là, Samuel Larochelle, j'ai assez de talent pour trouver une idée, écrire un livre, être hyper créatif dans ce livre-là, puis finalement, aller rencontrer une maison d'édition puis voir mon livre finalement fait. Ce step-là, est-ce qu'il est si difficile que ça?
Oui, parce que ça prend de la confiance de se dire mes idées pourraient intéresser les autres. Ou ouais. Ce que j'ai à dire, ou ma vision du monde, c'est pertinent pour le partager. Mais je me rappelle que ce qui est devenu mon premier roman, qui s'appelle « À cause des garçons », j'ai commencé à l'écrire parce que ça faisait des années, quand je racontais ma vie à mes amis, mes anecdotes, j'essayais toujours d'être le plus drôle, le plus punché, le plus divertissant. Puis je voyais que ça divertissait énormément mon entourage. J'avais l'impression que ma vie était un film ou un roman. Il fallait que je l'écrive à un moment donné. Et un jour, je me suis assis et la première version de ce roman-là, c'était 90% basé sur du réel. Et quand mon éditrice s'est embarquée là-dedans, elle m'a fait réaliser certaines failles, elle m'a suggéré d'ajouter plusieurs aspects. Donc là, c'est devenu 30% basé sur moi, le reste est que de la fiction. Et le deuxième roman qui était la suite, c'était 99% de la fiction, puis j'ai réalisé que j'avais bien plus de fun à inventer qu'à essayer de raconter du vécu. Donc, mais c'est toute partie du fait que je suis un raconteur, puis j'aime ça divertir mon monde, puis que ce soit rythmé, punché, drôle, touchant, puis de toujours mieux raconter mes histoires.
OK. Est-ce que tu écris le jour, le soir, la nuit?
Surtout le jour. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais le soir, mais c'est de moins en moins possible. J'ai jamais écrit la nuit. Fait que tu sais, le cliché de l'auteur avec son café, sa clope ou son opium, c'est tellement loin de moi. Moi, c'est vraiment... ça peut être le matin, l'après-midi ou en début de soirée. Souvent la fin de semaine.
Puis quand, je sais pas, moi, t'es rendu au troisième ou quatrième chapitre, ça arrive-tu dans ton quotidien que tu dis « Ah, oh, clic, c'est vers là que je vais aller maintenant » ou quand tu commences à écrire, t'as jamais le syndrome de la page blanche puis tu continues?
Je continue tout le temps, mais moi, je m'écris un plan. Fait que je vais avoir un plan de peut-être 8 à 15 pages. Et je sais vraiment l'évolution, tous les pivots de l'histoire, le début, le milieu, la fin. Mais quand je m'assois pour écrire l'idée du chapitre 1, il y a des choses dans les dialogues, puis il y a les choses dans la narration qui vont surgir, qui vont me surprendre, qui vont influencer un petit peu ce que je vais écrire ensuite. Mais ça ne va jamais faire basculer mon histoire qui était prévue dans mon plan. Je pense que c'est mon côté journaliste, je suis très structuré. Dans mes idées. Donc, quand j'écris, je sais où je m'en vais.
OK. Donc, tu as des romans, puis tu as aussi des récits biographiques. J'ai vu que tu avais fait Peter MacLeod, j'ai vu que tu avais fait François Gendron, un homme que j'aime bien, qui a fait plusieurs années à l'Assemblée nationale. Là. On pensait qu'il faisait partie des meubles. À un moment donné, il a dit « Bon, ben ça serait le temps que je prenne ma retraite. » Et tu as fait aussi Bruno Pelletier. Écoute, tu en as plein. Louise Portal, tu sais, que ça fait un bail qu'on n'a pas entendu parler, mais pour Madame Portal, ça fait partie de mon enfance. On en entendait régulièrement parler, là.
Oui, puis jusqu'à il y a peut-être 3 ans, elle était dans des séries télé, dans des
Ouais.
films, elle jouait énormément. C'est elle, l'an dernier, qui a reçu l'hommage au Gala du cinéma québécois, puis elle a tellement de films, tellement de séries télé à son actif, en plus 20 livres, en plus 5 albums de chansons. Fait que j'ai fait 4 bios, j'ai fait beaucoup de romans, j'ai fait de la poésie accessible, puis j'ai fait aussi des albums graphiques. Donc, il y a beaucoup. Puis en plus, j'écris pour les adultes, pour les ados et pour les enfants, selon le projet.
Mais est-ce que c'était des gens que tu connaissais qui étaient dans ton quotidien? François Gendron, est-ce que tu le connaissais?
Non, mais c'était le député de ma circonscription natale.
OK.
Fait qu'à un moment donné, j'ai voulu avoir plus de projets qui me reliaient à mon Abitibi. Fait que j'ai cogné à sa porte, puis je lui ai dit que j'avais envie de faire le projet sur sa vie. Puis il a embarqué, ça a vraiment été agréable. Pour Peter MacLeod, c'est la maison d'édition qui m'a approché. Louise Portal, avec des années, on se côtoyait dans les salons du livre, on s'aimait bien, puis à un moment donné, elle s'est dit, je pense que je vais proposer à Samuel de faire ça. Puis Bruno Pelletier, c'est moi qui cognais en fait à la porte de son agent, qui m'avait dit, bonne chance mon petit gars, Bruno a jamais voulu faire ça dans le passé, on lui a souvent proposé, mais là j'étais super insistant. Il me dit, bon ok, envoie-moi une lettre pour présenter ton projet, je vais la transférer à Bruno. Bruno l'a lu, on me propose une rencontre. Moi, je m'imaginais que ce serait dans la poche, mais au fond, Bruno voulait juste me dire en personne pourquoi il voulait pas aller de l'avant. Mais il s'est fait prendre au jeu. Je l'ai convaincu. Puis on a fait le livre. Puis ça a très, très, très bien fonctionné. Puis on est devenus des amis.
Et Samuel Laroche, pourquoi les gens sont réfractaires au départ à ce qu'on écrive un livre sur leur vie? Tu sais, moi, en tant qu'individu, je pense qu'on n'est pas, à mes yeux, à moi, tu sais, je suis vraiment pas exceptionnel. Tu sais, si un jour, à la fin de ma carrière, un Samuel Laroche, ma La Rochelle m'approche puis il me dit Yann, j'aimerais ça écrire un livre sur toi puis la radio, j'ai rien d'intéressant à dire. Ça serait
Ben,
mon
soit
premier
parce qu'ils ne sont
réflexe.
pas conscients de tout le merveilleux qu'ils ont à raconter, soit parce qu'ils pensent qu'une biographie, c'est un point final à une carrière, puis que ça veut dire que c'est fini, qu'ils sont has-been, puis qu'il n'y aura plus rien qui va arriver devant eux. Soit ils savent qu'une biographie, pour que ce soit intéressant, faut que tu donnes du matériel que tu n'as jamais donné en entrevue auparavant, que tu dévoiles des aspects plus privés. Puis là, peut-être que tu le sais, que tu as des choses très, très, très discrètes ou que ça pourrait brusquer des membres de ton entourage. Il y a des gens qui attendent que leurs parents soient morts avant de faire une biographie
Ben
pour aller au fond de l'exercice.
oui.
C'est beaucoup ça.
Ouais. OK. Parce que moi, je serais très réfractaire à ça. Un gars comme François Gendron, qui a eu une solide carrière en politique, lui, il doit garder des secrets, là. Des secrets de l'Assemblée nationale. Quand il y a un Samuel La Rochelle qui l'approche pour écrire un truc autobiographique, il se dit, attends un peu, là, moi, il y a des affaires que je peux dire, des affaires que je peux pas dire. Est-ce que je vais être si intéressant? Ça, c'est ta job en tant qu'auteur d'être capable de faire ressortir les pans intéressants des invités que tu as.
Oui, mais je fais ça à l'année longue en tant que journaliste, de devoir trouver les réponses qui n'ont pas été données aux collègues, de faire en sorte que les gens se sentent en confiance pour aller beaucoup plus loin dans leur confidence. Puis, une biographie, c'est le journaliste et l'écrivain qui se rencontrent. Je les mets en confiance, il faut aller vraiment en profondeur. Puis, la différence, c'est que contrairement à un article que je ne fais jamais relire à l'interviewé avant la publication, pour respecter l'éthique journalistique, quand je deviens un biographe, je travaille avec la personnalité. Fait que si pendant la discussion, il est allé un peu trop loin, puis que j'ai enregistré ça, puis je l'ai mis dans le texte, après coup, il a le droit de faire, c'est-tu quoi ce paragraphe-là, j'aimerais ça qu'on l'enlève, ou je me suis mal exprimé, est-ce qu'on peut reformuler telle phrase? C'est vraiment une collaboration quand on fait des biographies.
OK. Qu'est-ce qui détermine, selon toi, Louise Portal? Qu'est-ce qui détermine sa carrière?
Les gens retiennent surtout l'actrice,
Ouais.
l'intensité, la connexion hyper facile aux émotions. Et, tu sais, moi, je la connais depuis quelques années, alors qu'elle a l'âge d'être ma grand-mère. Mais je pense que les gens qui l'ont connue de vingtaine à soixantaine, très, très belle femme aussi, très, très, très charmante. Fait qu'un énorme talent, magnifique, hyper connecté à ses émotions. Elle a fait des rôles très marquants.
Et tu pars de sa jeunesse, de son ascension?
On raconte tout, pas nécessairement en ordre chronologique, mais on va raconter sa jeunesse, sa famille, sa vie avec sa jumelle qui était Louise Lapointe, parce que, pas Louise, mon Dieu, j'ai oublié le nom de sa jumelle, Pauline Lapointe, qui est aujourd'hui décédée, qui a pratiqué le même métier, qui était très, très connue. On parle des grands projets au cinéma, au Québec, à l'international, des projets de livres, de ses amours tumultueuses. Fait qu'on parle de tout, tout, tout.
OK. Ça doit être cruel quand même être artiste puis avoir un jumeau ou une jumelle, surtout pour la personne qui te ressemble là, et qui n'est pas dans ce métier-là. Dans ce cas-ci, ils faisaient les deux le même métier, mais je veux dire...
C'était pas des jumelles identiques, heureusement.
Ah, ben voilà, OK. Parce que des jumeaux identiques, ça doit être assez compliqué.
Hey, tu peux comprendre que Louise Lapointe est devenue Louise Portal parce qu'elle a une volonté d'être toute seule, pas de s'isoler, là, mais tu sais, d'avoir sa pleine personnalité puis sa propre identité.
Mais elle est née en 1950, Madame Portal, dans ces années-là. Puis je sais qu'il faisait beaucoup de changements de nom à l'époque. Tu sais, Michel Louvain, c'était Michel Poulain.
Ouais.
Donc, on avait changé Michel Poulain parce que c'était trop courant pour Michel Louvain. Il est devenu une méga star par la suite. Là. Ils ont pas mal... Dominique Michel aussi avait changé de nom.
Ouais.
Il faisait pas mal de tout ça. OK. Pour Bruno Pelletier, est-ce que ça a été difficile d'écrire sa biographie à Bruno Pelletier? Parce que c'est un gars qui semblait réfractaire au départ à l'idée qu'un Samuel Larochelle puisse parler de sa vie en général.
Bruno est très pudique, très privé. Donc, d'aller chercher suffisamment de matériel qu'il n'a pas dit ailleurs, de le mettre en confiance, c'était clairement un défi. Je pense que ça m'a pas pris énormément de temps, mais quand on ouvre les premières pages de la biographie, ses premières réponses, c'est lui qui se demande à la première entrevue, je sais pas si je fais bien d'être ici, je sais pas si j'ai quelque chose à dire, je sais pas si ça va être à la hauteur, je sais pas si ça va intéresser le monde. Fait que tous les doutes que tu peux imaginer, il les avait.
Ben c'est cruel, là. Je veux dire, c'est cruel. T'sais, bon, on accepte, après ça, ben essaie de dire que dans ta vie, il y a quelque chose d'intéressant. Moi, ce que je trouve formidable sur des biographies de ce genre-là, c'est que tu comprends au travers de la lecture pourquoi ces gens-là ont réussi à avoir une belle carrière puis perdurer avec le temps. T'sais, c'est 4 décennies, là, Bruno Pelletier, c'est énorme.
Mais tu sais, un peu brutal, mais c'est un peu niaiseux de sa part d'imaginer qu'il n'y a rien à dire parce qu'il a fait Notre-Dame de Paris le plus gros succès à travers la francophonie de l'histoire. Il a fait Starmania. Il a gagné plein de prix au Québec. Je veux dire, il a une carrière hyper intéressante et il a réalisé, à force de me parler, qu'il y avait comme un sous-texte à tout ça. C'était la présence de l'anxiété très, 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 très forte chez lui. À quel point ça a influencé sa carrière, sa vie personnelle. Fait que c'est un peu devenu le fil rouge qui traversait toute la biographie et tous les sujets. Donc, d'en parler, d'en prendre conscience, à force de jaser avec moi, ça y a fait du bien.
Ouais, c'est
fait que la bio le fait avancer.
Mais faut comprendre, tu sais, souvent, là, j'ai parlé avec le fils de Jean Charest il y a de ça quelques semaines dans Marceau Soir, puis, tu sais, moi, je trouvais ça exceptionnel, discuter avec le fils de Jean Charest qui, lui, va se présenter en politique aux prochaines élections, puis je disais, mais c'est comment être le fils de Jean Charest, tu sais, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a eu une bonne carrière au Canada, mais surtout très, très, très connu au Québec, il a été premier ministre du Québec, il me dit, Yann, moi, Jean Charest, c'était juste mon père.
Ouais.
Puis si je demande, tu sais, Jean Charest, comment il se trouve, Jean Charest? D'après moi, Jean Charest, il se sent un peu comme moi. Il se sent bien ordinaire, mais il avait un feu en lui qui brûlait pour la politique, puis il a réussi à avoir une solide carrière. Mais il y en a d'autres comme, exemple, tu sais, je veux pas tomber sur la politique américaine, mais tu sais, je sais très bien que Donald Trump, si je lui demande pourquoi vous avez réussi, ben il me dirait, c'est parce que je suis Donald Trump. Mais si je demande à Jean Charest, que j'ai rencontré personnellement une fois puis que j'ai adoré, contrairement à quand je le voyais à la télé où je le détestais pour m'en confesser, si je demandais à Jean Charest comment vous avez fait pour réussir à travers toutes ces années-là dans les domaines où vous avez excellé, il me dirait, ben je sais pas, j'ai travaillé fort. Tu sais, on est tous
François Gendron, Je pense que peu importe l'allégeance politique, c'est dur de ne pas aimer ce monsieur-là. C'est dur de ne pas reconnaître le travail, la longévité, la maîtrise des dossiers de plusieurs ministères, plusieurs domaines. Fait que je suis pas prêt à dire que tous les politiciens québécois sont pas des gros égaux, mais il y en a beaucoup qui sont là pour les bonnes raisons.
Oui, mais ils peuvent montrer qu'ils ont un gros égo. Tu sais, j'en parlais la semaine passée. Denise Bombardier, que j'adorais. Denise Bombardier, quand elle était jeune, à un moment donné, tu sais, elle sortait du lot, là, je veux dire. Elle avait un accent très français, elle avait de l'air hautaine, elle était capable d'aller en débat avec n'importe quel homme, ça lui faisait pas peur. Puis à un moment donné, ouais, ben, il y a un intervieweur qui a dit: « Madame Bombardier, pourquoi cet air aussi, pourquoi vous avez un égo aussi démesuré? » Ben, elle dit: « Sans mon égo, je serais pas devant vous, monsieur.
Mm-hmm. » Mais je trouve qu'elle a pas réussi à nuancer, parce qu'il fallait qu'elle... Ça rentre dans le tas pour faire sa place. Elle le fait énormément pour la cause des femmes.
Exact.
Puis elle est très, très intelligente. Elle était très intelligente. Mais moi, les gens qui regardent de haut, qui méprisent les gens en plusieurs circonstances, j'ai bien du mal à avoir du respect pour ça. Puis elle le fait souvent, ça.
Est-ce qu'elle le faisait intentionnellement parce qu'elle était le personnage de Denise Bombardier, ou elle était comme ça? Moi, c'est ce que j'aurais aimé lui poser comme question. Mais si Denise Bombardier n'avait pas été comme ça, ben elle aurait passé dans le beurre, comme toutes les femmes qui ont essayé de faire ce métier-là, ou tous les hommes qui ont essayé de faire ce métier-là, puis qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir un certain égo, puis prétendre qu'eux détiennent peut-être une portion de la vérité.
Oui, mais je pourrais dire, même si bien des gens peuvent penser que c'est boiteux, mais être... ouvertement homosexuel en tant qu'artiste ou en tant que journaliste il y a 15 ans, c'était vraiment une autre game, c'était beaucoup plus risqué. Fait que, il fallait que j'aie un certain ego pour faire ma place, pour me faire confiance. Je me rappelle à ma première entrevue au journal La Presse, ma boss, elle me disait: ah, tu te fais confiance, hein? Tu sais, tu crois pouvoir travailler pour nous très jeune. Puis, mais moi, je me permettrai jamais de franchir la ligne où je vais juger et cracher sur la tête des gens.
Ouais, je
puis je pense qu'elle a franchi cette ligne-là. Puis jamais un persona ou un personnage médiatique me donnerait la légitimité de marcher sur le monde.
OK. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais écrire leur biographie?
Oui, j'aimerais beaucoup écrire la bio du chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin.
Hey, celui, lui, il est exceptionnel.
Ouais, parce que c'est, je pense qu'il y a beaucoup à dire.
C'est un gars qui travaille dans un domaine très niché, mais qui est capable de parler à des enfants, il est capable de parler à des gens qui connaissent absolument rien de son domaine, puis il est capable de parler à des gens qui connaissent avec précision son domaine.
Puis sinon, moi, j'aime ça que d'aborder des domaines différents dans les bio, fait que la bio d'un athlète. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je suivais tous les sports professionnels, le hockey, baseball, le football et compagnie. Là, je suis beaucoup plus amoureux du tennis, des sports qui vont aux Olympiques. Puis j'ai côtoyé Alexandre Despatie dans une ancienne vie, on se connaît très, très, très bien. Fait que s'il était prêt à faire une bio, je la ferais. Puis en chanson, une Lara Fabian, je sais qu'elle a une histoire humaine puis une histoire de carrière fascinante. Fait que c'est trois noms qui me viennent en tête.
Okay.
Très différents les uns des autres.
Est-ce que ça a été difficile d'écrire le récit biographique de Peter McLeod?
Non, puis c'est particulier parce que quand on m'a approché pour écrire la bio, ben le récit biographique de Peter, moi, je connaissais le personnage de scène,
ouais,
un peu macho. Puis là, j'étais comme, s'il est macho, ça veut-tu dire qu'il est homophobe? Ça veut-tu dire que je vais faire un projet avec quelqu'un comme ça? Mais on m'a convaincu d'aller le rencontrer.
Ouais.
Et j'ai vu qu'en personne, il n'est pas du tout homophobe, il est très ouvert d'esprit, très gentil, très sensible. On a cliqué tout de suite, puis ça s'est fait tout seul du début à la fin.
Y es-tu TDAH un peu?
Pas selon ce que j'ai observé, ouais, non.
Parce que c'est l'impression que ça me donnait. Moi, je l'ai vu régulièrement en spectacle, puis tu sais, il va d'un bord, il va de l'autre. Mais quand tu le vois dans son quotidien, c'est un gars qui aime bien ça être dans le bois, puis tout ça.
Ouais.
Tu sais, souvent, les gens qui sont un peu qui sont surstimulés ont tendance des fois à se retrancher dans le bois. Fait que c'est pour ça que je voulais te poser la question. Puis lui, le titre de son livre, c'est « L'homme de ma vie ». Parlait de...
Ben, ça fait référence à lui-même. Parce que il raconte à quel point pendant 46 ans de sa vie, il était complètement déconnecté de ses émotions. Ses relations amoureuses se finissaient toutes après 2 ou 3 ans. Puis ses ex-blondes nous disaient: « Je te connais pas. J'ai l'impression de pas savoir ce que tu ressens, ce que tu vis. » Puis à un moment donné, il a frappé un mur, puis il a réalisé que ben, ça avait pas de sens. Fait que dans le livre, il raconte c'était quoi la situation problématique. Il remonte dans le temps pour comprendre comment il s'est construit pour devenir le gars trop rough, qui se donne pas le droit de vivre des émotions, puis qui vit des choses qui n'ont pas de sens et comment il a changé. Ça a été quoi ses outils et sa démarche pour se transformer. Fait que c'est ça, lui. C'est pas toute sa vie, c'est une partie de sa vie.
Est-ce que son handicap a été une problématique?
Je pense que ça peut avoir créé, aussi à l'époque où il a grandi, peut-être un sentiment d'infériorité. C'est sûrement fait écœurer. Ça donne envie de prouver à tout le monde que t'es fort, ça, ou plus fort que. Fait que ça a probablement eu un effet pour la suite.
Je rappelle aux gens qu'on est avec Samuel Larochelle. Si vous trouvez le personnage intéressant, tout comme moi, puis vous voulez en savoir plus, c'est samuellarochelle.ca. C'est un, il y a plusieurs facettes à sa carrière, là. C'est un artiste, c'est un journaliste, c'est un écrivain. On fait une courte pause, puis on va jaser encore quelques minutes avec lui tout de suite après. Merci, restez là.
Marceau, le soir. Le soir.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec Samuel Larochelle, un artiste multidisciplinaire qui réussit à faire énormément de projets en très peu de temps. C'est un surhumain. Je pense que c'est comme ça que je te considère, Samuel.
Un super héros.
Oui. Tu pourrais faire des conférences sur comment trouver du temps quand on n'en a pas.
Hey, je pourrais être un coach de vie puis je brasserais bien du monde. Ça, c'est sûr.
Est-ce que la pandémie, toi, a été bénéfique pour toi? Parce qu'en pandémie, on a comme été tous un peu isolés. Moi, tu comprendras que quand il y a eu l'annonce que tout était fermé pour un certain temps, ben les entreprises qui plaçaient de la publicité ont décidé d'arrêter de placer de la publicité, ce qui fait en sorte que moi, j'ai toujours rêvé de faire de la radio de soir. Puis c'est ce que je faisais. J'ai fait ça pendant 11, 12, 13 ans, je pense. Et à un moment donné, ils ont dit, ben là, il n'y a plus de publicité, fait que on va te laisser de côté pendant un certain temps, puis tu vas être le premier rappelé. Ils ont respecté leurs paroles. Je suis revenu, mais j'ai comme été un peu isolé, puis là, je me cherchais des projets et tout ça. Puis il y a plein de choses que j'ai découvert au travers de la pandémie qui fait en sorte que ça a un impact positif maintenant sur ma vie. Toi, en tant qu'artiste, est-ce que t'es tombé sur quelque chose que tu t'attendais pas pendant cette pandémie-là, ou ben t'as trippé, t'es resté chez vous, tu sortais pas?
Ni un ni l'autre. Je te dirais que la pandémie m'a fait perdre une relation amoureuse. La pandémie m'a fait perdre 6 mois de travail. Exactement comme tu l'as résumé, il n'y avait plus de publicité ou très peu dans les médias. Fait qu'on peut plus engager le pigiste. On se concentre sur les journalistes à l'interne.
Ouais.
Puis même comme auteur, les salons du livre, les conférences dans les écoles, les ateliers d'écriture dans les écoles ou avec des adultes, tout ça est annulé. Fait que j'ai perdu 6 mois de salaire et de projet. Mais comme je suis quelqu'un qui avait énormément travaillé sur lui depuis longtemps, me retrouver tout seul, puis même avec pas de projet, ça n'a pas eu l'effet d'un coup de 2x4 d'en face. J'étais pas soudainement avec des émotions que j'essayais d'étouffer dans le passé. J'étais juste très au courant de qui j'étais puis de ce qui se passait. Fait que pendant ces années-là, j'ai commencé le projet avec François Gendron. J'ai commencé le projet avec Bruno Pelletier. J'avais aussi un roman qui était en chantier. Fait que je me suis tourné pendant quelques mois sur des projets de livres pour me donner une raison de me réveiller le matin puis avoir de la motivation. Et comme je vivais seul, je pouvais au moins avoir un visiteur une fois de temps en temps. Mais ça m'a rien appris sur moi, à part que j'étais assez solide face à l'adversité. J'ai pas développé des nouvelles passions. Puis
j'avais
hâte que ça finisse.
Quand on est travailleur autonome, tu sais, la sécurité d'emploi, on n'en a pas. Puis des fois, on est payé comme 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard. Est-ce que ça a été un stress pour toi? Ça fait plusieurs années là, que tu fais ce genre de travail-là. Est-ce que c'est un stress financier? On se lance un peu dans le vide?
Je me suis posé la question, mais c'est pas devenu un stress parce que j'avais assez d'économies, parce que j'ai travaillé comme un fou dans mes premières années. Pour avoir un coussin financier, savoir que je pouvais payer mon condo, je pouvais payer mes dépenses, genre l'épicerie, parce que pour le reste, on n'avait plus de dépenses d'aucune façon. Puis ma conseillère financière m'avait dit, ceux qui sortent leurs économies par peur sont ceux qui font une erreur. C'est sûr qu'il y en a qui devaient, pour subsister, sortir des économies, mais si, elle me disait, si tu peux les laisser, tu vas t'en tirer, tu vas en sortir gagnant. Fait que c'est mes économies puis mon fonds de prévoyance qui m'ont sauvé les fesses pendant 6 mois. Et les 6 autres mois, j'ai tellement eu de contrats que j'ai fini l'année avec presque pas de différence par rapport aux années habituelles.
Okay,
mais... j'ai du mal à l'expliquer, mais je m'en suis tiré.
Tu as travaillé d'arrache-pied. Hey, on termine avec ça. Tu fais des ateliers et conférences. D'ailleurs, atelier d'écriture pour ceux qui veulent écrire des livres, c'est possible de le faire. Est-ce que c'est compliqué d'apprendre à quelqu'un? Voici le plan pour écrire un livre. Voici comment créer des personnages principaux, création des lieux et tout ça. Comment décrire les lieux, comment décrire les personnages principaux, comment les faire interagir.
C'est compliqué, c'est trouver une idée d'histoire originale et développer son style, parce que développer un style, c'est très, très dur à enseigner. C'est souvent à force de lire puis à force d'essayer d'écrire que tu trouves ta façon de te démarquer. Mais les trucs que je donne pour créer un personnage principal original et complet, puis les trucs que je donne pour que quand tu décris l'environnement puis l'atmosphère, ce soit pas plate et redondant, mais que ça serve l'histoire. Pour vrai, c'est très terre-à-terre, c'est très pragmatique et ça aide beaucoup les gens.
Quand tu vas faire des conférences dans les écoles, tu leur racontes quoi aux élèves?
Je leur raconte tout mon parcours personnel et professionnel de six gars sans modèle et sans contact qui n'a aucune confiance en lui, qui a réussi à faire sa place dans deux milieux de travail hyper difficiles d'accès. Je leur dis aussi d'arrêter d'écouter les parents et les profs qui leur mettent de la pression pour trouver beaucoup trop jeune leur voie de carrière, de faire plein d'activités, plein de comités pour se trouver, de prendre une pause pour aller travailler ou voyager pour mieux se connaître, puis se donner le droit de se planter, puis de changer, puis de juste toujours progresser, parce que c'est un discours qu'on n'entend pas suffisamment.
En quoi ton parcours a été un parcours où tu as dû faire preuve de résilience et de persévérance?
Mais quand tu te détestes pendant des années puis que tu penses que tu n'as rien à offrir au monde puis que tu finis à t'apprécier assez pour te dire mes idées puis mes histoires peuvent être intéressantes pour les autres, c'est un énorme travail. Puis quand tu grandis en faisant partie d'une minorité dans une région où, à l'époque, c'était pas accepté. Ça aussi, c'est lourd. Quand tu vis avec de l'intimidation, quand il y a de la violence familiale à la maison, c'est beaucoup, beaucoup d'adversité que tu dois surmonter pour avoir une vie équilibrée puis pour réussir à t'apprécier comme humain. Fait que... Et dans le professionnel, j'ai eu mon diplôme de journalisme à 19 ans puis j'ai commencé à pratiquer 7-8 ans plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises expériences et de détours qui m'ont aidé, mais je vois pas ces détours-là comme des pertes de temps. Mais ça a pas été tout cuit dans le bec et donc bien rapide, mon affaire.
Non, ce que j'aime, c'est que tu as travaillé extrêmement longtemps pour en arriver là où tu es rendu. Puis, tu sais, oui, tu as dû faire preuve de résilience, mais surtout de persévérance. Puis, il y a une image que je me souviens où ces deux individus qui sont superposés, qui creusent un trou. Et là, nous, on voit l'individu, on voit le sol, puis on voit ce qu'il y a en dessous du sol. Puis il y en a un qui creuse un genre de 2,5 mètres de trou, et le trésor se trouve à 4 mètres. Tandis que l'autre, il n'arrête pas de creuser, puis à un moment donné, au bout de 4 mètres, il pogne le trésor. Ça, c'est-à-dire que la persévérance est super importante, puis parfois, ben, on peut réussir à se trouver. C'est ce que tu as fait, puis tu as une solide carrière. Là, je regarde tout ce que tu as fait dans les dernières années, puis tu peux en être bien fier. Je ne sais pas, je connais pas tes parents, mais si un jour j'avais un enfant qui avait une telle carrière, je serais bien heureux, puis je considérerais que j'ai plus à me stresser pour mon enfant. C'est souvent le stress qu'on peut avoir pour nos enfants. Du moins, je m'en vais là-dedans, moi, là, parce que souvent, ils me parlent de la carrière qu'ils aimeraient avoir. Quand ils me parlent de TikToker, je commence à paniquer. Fait que si...
Mais s'ils le font, dis-leur qu'il faut qu'ils travaillent comme des forcenés, ben qu'ils se démarquent, parce que s'ils pensent que ça va être facile, ils vont se péter la gueule.
Hey, ça a été une belle rencontre, Samuel Larochelle. Puis quand tu seras de passage à Québec, écris à Thomas ou écris-moi. Puis je te réserve un petit moment dans le show du midi ou dans le show du soir. Puis on se trouvera quelque chose à placoter.
Merveilleux, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour les gens qui veulent en savoir plus sur Samuel. SamuelLarochelle.ca. C'est un auteur, c'est un journaliste, un gars hyper intéressant. Puis il y a une multitude de livres qu'il a écrits, incluant des récits biographiques qui vont faire en sorte que, probablement, que quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, ah ben tiens, je vais aller lire le livre que je vous parlais tout à l'heure avec M. Gendron. Il m'intéresse grandement. Samuel, t'es-tu encore là?
Oui, je suis encore là.
Oui. Est-ce que je peux commander le livre sur ton site directement?
Non, mais si on va sur leslibraires.ca, on peut trouver tous les livres, puis c'est extrêmement simple, c'est le même prix qu'en librairie.
Bon, ben je vais aller chercher ça immédiatement après l'émission. Merci!
Merci!
Bye-bye! Nous, on se laisse là-dessus, juste de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1, et j'aurai le